Chapitre 7. Par amitié, je comprenais qu'il ait pu trouver dans Oddiane tout ce qui lui manquait, je veux dire l'incessant renouvellement de l'amour, de la fantaisie, la forme vivante de sa culture classique et de l'idée qu'il s'était faite de la femme, d'une femme. Il croyait avoir démêlé en elle la femme qui put désirer, recevoir, assimiler tout ce qu'il voulait donner de sa personne. Il inventait en elle une sorte de perfection qui aurait eu besoin de lui pour, par une reconnaissance de soi en l'autre, un narcissisme partagé. Oddiane était une femme capable de lui dire « Je t'aime pour rien », à laquelle il pouvait répondre à son tour « Je t'aime sans savoir pourquoi, indéfiniment ». Mais combien d'amants n'ont-ils pas déjà dit ça ? Finalement, la simple vérité de cet homme était sa prédilection grande et romantique pour l'amour destin, dont l'explication est aussi folle à faire que toute tentative qui déciderait du sexe des anges. Moi, dont la conception de l'amour est aux antipodes de la sienne, pour qui la femme est ce qu'elle est sans que j'aie besoin d'aller en de telles prospections, j'avais été longuement surpris. Cet homme enfant était d'un siècle différent du mien, amant d'une Atala cruelle, un Santo en décalage. Devant lui, j'étais admiratif, mais incapable de le suivre. D'ailleurs, tous ses discours et ses narrations m'échappaient comme à certains restes étrangères la passion artistique. Cependant, j'en ai été très marqué et peut-être son absence et la confiance qu'il m'a faite en sont-elles pour beaucoup. Sa toile de fond, l'amas de questions dont il était le terrain bossué, sa perpétuelle hésitation entraînée, disons-le, par son éducation de jeune homme solitaire parce que fils unique, son souci contraignant de ne rien oser bouleverser dans la vie des autres, tout cela me l'avait peint comme un homme profondément malheureux. On voit un pourcentage écrasant de couples où l'équivalence n'existe pas, où seul règne le rapport des forces. Je comprends qu'une femme puisse créer avec un homme ce qu'Adrien nommait la pulsation, un rythme vital complet, en somme, une vérité de l'amour humain. Non pas une vérité inanalysable dans laquelle on pourrait aboutir grâce à des pourquoi et des parce que, mais un axiome de paix. Il faut dire que cette paix apparente dans laquelle je les avais vus un court instant, car le soir où je connus Oddiane pour la première fois, le calme total se lisait sur le visage d'Adrien, cette paix devenait maintenant pour moi l'illustration de tous les désirs poétiques de mon vieil ami. « Je ne peux aimer que dans le repos de l'esprit », lui avait écrit Oddiane. Ils avaient donc des similitudes. Si Adrien avait vécu tant de tourments, il ne les avait pas organisés par masochisme, comme un amateur de tragédie. Même dans leurs nombreuses fusions charnelles, ils avaient sûrement fait jaillir leur comme une pulsation, consonance impalpable mais réelle, qui n'était plus alors une sorte de cogito trop envahissant. Au début de juillet, Adrien m'invita de nouveau à passer le dimanche avec lui. Il était toujours amoureux d'Oddiane, mais avec le sens du relatif. Il refusait d'être ordinaire dans une douleur qu'il savait ne pas pouvoir briser. Son amour pour Oddiane serait un perpétuel combat. Mais enfin, avais-je risqué, que vous coûte de prendre le train pour Paris ? Vous savez son adresse, diable, une explication n'a rien de déshonorant. J'ose supposer qu'elle n'a rien de particulier à vous reprocher. On voit bien que vous ne la connaissez pas, mon bon ami de cour. Lui demander compte de quelque chose, mais c'est l'explosion. Elle me met dehors avec la violence d'une déesse antique surprise au bain. C'est ce qu'elle doit attendre, que je m'humilie devant elle. Ah, non, 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 ce n'est pas dans mon tempérament. Après cette réponse vigoureuse d'Adrien, moi qui connaissais la médiocrité courante de tant de couples et de ce que les gens appellent l'amour conjugal avec ses devoirs et ses concessions, je restais rêveur en recevant la leçon. Tous mes voisins, tous mes amis, mariés ou non, mais concubinant au quotidien, s'ancrent, se laissent agripper la carène par des coquillages. Leur amour assuré tout risque est un baume, un calmant plus qu'une bataille, qu'un désir de renouvellement. Le dédard d'Odiane était donc compréhensible avec, par son aspect, la forme d'une condamnation dont Dieu seul savait la cause et sa clé. Peu après mon coup de sonnette à midi, Claire et Yves arrivèrent du marché. Il faisait très chaud. Claire voulut cuisiner. Adrien, Yves et moi, nous avions dressé la table à l'ombre dans un coin du jardin, et comme la saison s'y prêtait, on s'offrit un pastis à la marseillaise, des olives et des anchois. On eut des crudités, des brochettes d'agneau, un petit rosé sec, un vacherin. J'ai gardé de ce dimanche un souvenir d'autant plus précis qu'il modifia considérablement le cours de ma vie. Nous avions fini le repas et bavardions des études de Claire et d'Yves, quand Adrien rentra dans sa maison, puis revint presque aussitôt pour déposer devant moi une enveloppe de grand format. Il alluma un cigare. Eh bien voilà, dit-il, j'ai pris la décision de partir pour l'Italie, où m'invite ma vieille amie d'enfance, Mademoiselle Rochette. Elle avait épousé un ingénieur italien qui l'emmena à Sorrente. Ils ont eu 4 enfants. Son mari est mort il y a quelques années. Nous nous sommes écrits régulièrement et dans ses lettres, elle m'a toujours assuré de son amitié fidèle, que je pouvais venir la rejoindre si le cœur m'en disait, si des ennuis embrumaient mon existence. Récemment, je lui ai dit ma situation. Elle m'invite à venir auprès d'elle. Je partirai au début de septembre, après mes vacances. Mais je vous avoue que je ne sais pas combien de temps je resterai là-bas. Si je reste définitivement, je vous le ferai savoir, afin que les enfants m'y rejoignent, s'ils le décident. Claire, tu es presque lancée dans la médecine, puisqu'il te reste peu d'années avant de présenter ta thèse, et tu n'as plus guère besoin de moi. Yves, oh, je ne veux pas t'emmener avec moi au cas où ta maman voudrait te prendre avec elle. Il me reste vous, cher ami, à qui je confie dans cette enveloppe toutes mes affaires, en particulier la charge d'Yves, qui accepte votre tutelle et m'a dit même qu'il s'en réjouit. Vous voyez, les choses sont simples. Et, mes enfants, si vous voulez habiter ici, je vous laisse la maison, enfin du moins pour le temps de mon absence. Vous avez tout dans ces papiers. Je veux que personne ne m'écrive, car je fais en Italie une sorte de retraite dont je ne demande aucune excuse, mais ma décision est irrévocable. Mon ami, acceptez-vous cette lourde responsabilité? Oui, enfin, répondis-je un tantinet gêné, mais je dois vous dire que vous me prenez de court. Je ne pensais pas que votre amitié irait jusqu'à me faire endosser d'un coup et sans préparation tant de choses qui me sont étrangères, tant de problèmes dont je ne connais pas les détails. Je comprends, mais vous avez jusqu'en septembre pour analyser avec moi le contenu de cette enveloppe où il y a entre autres mon testament. Qui sait? Si vous refusez, vous me le ferez savoir et je prendrai d'autres dispositions. Mais sans vous en vouloir du tout. Cela vous convient-il? Mais je... Bien, donc, les jeunes, vous reviendrez ce soir. Allez à Paris au cinéma ou faire la sortie que vous voudrez, comme convenu. Les enfants se retirèrent. Adrien voulait me faire ses dernières confidences au sujet de Diane, du fait que je devais probablement la rencontrer. J'ai ouvert la conversation. Malgré les larmes de Diane, vous aviez vu en elle de la froideur, c'est le moins qu'on puisse dire, et je partage votre sentiment. Si j'en crois ce que vous m'avez dit, je dois avouer qu'à votre place, j'aurais peut-être agi comme vous. Cependant, j'ai toujours pris moins de précautions et n'ai pas hésité à endosser des échecs, quelles qu'en aient pu être les conséquences. « Ne revenons pas, me dit-il, sur la différence qu'il y a entre nos caractères. J'étais comme ça, je crois ne plus l'être. D'accord, Diane y a mis moins de façon que moi, et elle a eu raison dans un sens. Sur ce plan, je lui dois beaucoup d'avoir changé ma manière de voir. Mais en ce qui concerne nos retrouvailles, elles ont eu lieu non pas à Blois, mais à Paris. » Dès mon retour, je m'étais replongé dans les activités. J'avais mon appartement rue de Rennes avec mon cabinet de conseil juridique, une secrétaire et un clerc. Un soir du mois d'octobre qui suivit, il était bientôt l'heure de dîner, quand la bonne que j'avais alors pour s'occuper un peu de clerc et de nos repas ouvrit un coup de sonnette que je n'avais pas entendu. J'étais en effet à consulter un dossier très important concernant une affaire épineuse et je sirotais quelque chose lorsque Madame Paulette, la bonne en question, entra vivement dans mon bureau. « Monsieur Barberolles, s'il vous plaît. »« Oui, madame, lui dis-je, il est 7h30 et vous voulez partir. Faites, madame, faites, j'ai un gros travail, comme vous le constaterez. Et puisque ma fille est couchée... Vous pouvez disposer, je vous attends demain matin et... Mais monsieur Barberolles, une... » Une quoi, madame ? Oh, vous voyez que je surnage à peine hors de ces paperasses. Alors, soyez gentil, à demain matin. Monsieur, une demoiselle a sonné et vous demande. Mais pourquoi avez-vous ouvert ? Une demoiselle qui dit que vous la connaissez. « Madame, personne après 7 heures. C'est un règlement que vous savez, pourtant. J'ai pas le temps, pas le temps. » C'est ce que j'ai répondu à cette demoiselle, mais elle a insisté. Elle a dit « Si vous lui dites que c'est Odiane, monsieur Barberolles me recevra certainement. Alors, vous comprenez, moi. » Je me suis dressé comme un diable à ressort pour ajouter « Bon, bon, j'y vais tout de suite. » Non, faites-la entrer, j'arrive. » Madame Paulette disparut sans même que je m'en sois aperçu. Oh, Diane, chez moi ? Oh, la surprise me coupait les jambes. J'arrivais vers elle et m'apprêtais à la serrer dans mes bras, mais je me retins à remarquer que ses yeux me fuyaient, qu'elle avait la bouche crispée, une nervosité à peine cachée, que je savais parfaitement lire sur les traits de son visage. Je lui ai tout de suite demandé si elle avait dîné. Elle m'a répondu que non, sur un ton ironique, avec un sourire, où avait percé un désir de m'entendre dire tout autre chose. Passant devant elle, je la conduisis dans mon bureau pour lui proposer un apéritif. Je ne savais pas où entamer la conversation. L'émotion m'étranglait littéralement. Elle ne m'avait pas prévenu. Venait-elle enfin se jeter dans mes bras ? Tout tournait dans ma pauvre tête égarée par mon dossier, au milieu duquel j'étais à 100 lieues de penser à une Odiane venue chez moi rue de Rennes. Mon cœur battait à tout rompre quand je lui fis faire le tour du propriétaire, pendant lequel nous n'échangeâmes que des banalités sur le cadre d'un homme seul. Quand nous sommes revenus dans mon bureau, je lui demandai si elle se laisserait séduire par une entrecôte et un coup de rouge, sinon le restaurant. Elle me renvoya un « Ouais, ça me va ». Dans sa réponse, il n'y avait ni lassitude, ni déception, mais une goutte de snobisme anti-bourgeois. Elle me suivit jusqu'à la cuisine, n'entra pas, restant appuyée au chambranle dans une pose déhanchée qu'elle prend souvent. Et puis nous nous sommes regardés, pendant que je poêlais la viande, échangeant quelques yeux de gamins qui ont volé des poires au presbytère. Elle avait des bottes noires, une jupe mi-longue en chevreau marron, un pull moutarde à col roulé, des bracelets, ses cheveux qui tombaient en vagues jusqu'à sa taille. Elle était d'une beauté qui troublait mes yeux à cause de sa fulgurance, et quelques gestes négligés décuplaient son charme ravageur. Je n'arrêtais pas de m'interroger sur les raisons de sa présence. Elle me proposa d'installer la table dans le salon, et peu après, je la suivis avec mes préparations simples de vieux garçon gauche, réduit à l'habitude du beefsteak frites. Elle fut pleine d'attention pour le détail et me fit remarquer qu'une femme manquait à mon intérieur. Je commis la maladresse de hausser les épaules en émettant des doutes. Elle parut déçue de ma réponse, n'insista pas, et nous nous mîmes à table. Elle m'expliqua les raisons de sa venue à la fac de droit de Paris. On m'avait tenu dans le silence parce qu'on ne voulait pas me déranger, m'obliger à lui chercher un studio si je ne pouvais pas la recevoir une reine. Je lui reprochais de ne pas avoir fait preuve de simplicité élémentaire. Elle aurait dû m'écrire d'abord elle-même, et combien il était ridicule qu'une aussi vieille amitié prît des gants aussi gros. Elle savait très bien qu'elle aurait pu venir habiter ici. « Ton amitié pour mes parents, pour tes parents, pour toi, évidemment. » Décidément, j'accumulais les imbécilités. Elle enchaîna tout de suite sur son plaisir d'être à Paris, où elle rencontrait enfin des gens de tous les milieux, bien plus déliés que les provinciaux. Elle suivait des cours beaucoup plus approfondis, faits par de grosses têtes. Nous avons parlé, parlé. À 1 heure du matin, elle se leva pour partir. Je la vis comme agacée, le geste imprécis, la parole heurtée. Je la reconduisis dans l'entrée. Devant la porte, elle se retourna et me regarda d'une façon étrange, puis me dit « Tu ne veux pas venir avec moi dans la rue ?» Nous continuerions de bavarder et tu me raccompagnerais jusqu'à mon studio. Tu verras, c'est petit, mais... Non, non, lui dis-je, il faut que tu te reposes. Et j'ai avec ça un travail monstre et je suis fatigué. Sans me répondre, elle baissa les yeux avec un sourire médiocre qui marquait la rage contenue. Puis elle passa et descendit sans me dire bonsoir ni se retourner. J'ai refermé ma porte et ouvert toutes les fenêtres pour aérer. Penché au balcon, je vis qu'elle marchait tristement dans la pâleur du premier réverbère en direction de Saint-Germain-des-Prés, son sac rejeté sur son épaule. J'eus l'envie soudain de crier « Oh Diane, reviens, t'as oublié quelque chose !» Sachant très bien qu'elle n'avait rien oublié chez moi, elle serait remontée, j'en suis certain, et que nous aurions passé toute la nuit dans nos bras parce que nous nous serions alors crié que nous nous aimions comme des fous qui passent leur temps à se fuir. Je suis allé choir sur mon lit, autre désert sans issue de lumière. Dans Paris, nous étions si proches, pensais-je, si loin de l'autre, aussi séparée encore que si elle était toujours à Blois. Je n'avais pas songé à lui demander quel et où était son gîte. Chez un particulier, dans une maison pour étudiants. Et comme elle était différente des autres fois, comme elle semblait subitement chargée de tendresse et de cœur, plus belle, plus jolie, plus femme, plus maîtresse de sa pensée. Elle était la femme telle que je l'avais comprise dans mes souhaits, imaginée, sculptée en mon rêve de nouveau Pygmalion. Je la découvrais sur une route, celle justement que j'avais autrefois pressentie. J'avais la tête tournée de l'avoir ainsi désirée, riche et fière, sauvage mais assouplie, charnelle et noble, avec une grâce furieuse. Oui, elle était venue pour m'observer une nouvelle fois, avant de prendre une décision. Elle me l'a dit par la suite. « Excusez-moi de revenir en arrière. Ce qui m'étonne fort, dis-je à Adrien, c'est que vous n'ayez pas eu l'idée de lui demander son adresse, même de l'inviter tout de go, à venir une bonne fois s'installer chez vous. C'est vrai, mais au fond de moi, je préférais ne pas la revoir trop vite, paradoxalement. Elle m'avait surpris, bon, je n'y pouvais rien. » Donc elle a sonné chez vous de nouveau. Justement, le lundi suivant, j'avais fini de déjeuner qu'elle arriva. « Bonjour, je viens t'emprunter des bouquins, je peux ?»« Tant qu'elle voudrait. » Pendant que je travaillais avec une fausse attention, elle farfouilla, feuilleta, choisit, replaça, se mit à lire, alla se faire une tasse de café. Elle s'asseyait dans mon fauteuil en soupirant fort, croisait et recroisait ses jambes, se rongeait les ongles, pendant que je tripotais des dossiers que je ne lisais pas. « Ça t'emmerde que je sois là ?» dit-elle soudain. « T'es folle » retorquai-je. « Oh, je dis ça parce que je sais que tu ne travailles pas. »« Alors, tu t'es déniché une piôle ?»« Ouais. »« Mais encore. »« Quartier latin ?»« Près de la fac ?»« Non, boulevard Saint-Germain. » Mais ça m'agace d'avoir grimpé des étages un peu raides. Et puis, c'est pas la galerie des glaces. Tiens, bon, j'ai envie d'y passer, à condition de ne déranger personne. Oh, j'étais surpris de mon audace, faisant une allusion indirecte à un garçon qui aurait pu vivre avec elle. Ah, c'est chic, je retrouve mon Adrien. « Bon, mais voilà l'adresse, mais pas après 4 heures, j'ai des cours. »« Entendu, alors demain 2h30, j'ai une librairie du droit à voir dans ton coin. » Oriane partit en emportant quelques livres. En réalité, je n'avais rien à faire boulevard Saint-Germain. Mais pourquoi manquais-je à ce point de simplicité, puisque mon seul prétexte était d'aller la voir, d'aller retrouver la femme de ma vie, Odiane? Je venais de me donner une preuve éclatante de mes inhibitions et j'enrageais. Le désir de la revoir même tout de suite me tirailla. Je pris la décision de parler, parler enfin. C'était l'occasion exceptionnelle de tout étaler. Cette fois, je ne devais plus du tout reculer, sinon j'étais perdu. Il fallait parler. Je ne pouvais plus supporter l'idée de repasser par la détresse, la jalousie, la misère d'une cruelle solitude. Tout se jouerait demain. 24 heures pour la victoire sur moi-même ou le délabrement définitif. L'heure fatidique, si vous voulez. Une chance sur deux, la fortune ou la ruine. Je ne peux pas prendre ma voiture, je suis trop nerveux. Pas de bus dans la cohue des voitures. Pour me calmer, je prends le pôle gymnastique jusqu'au carrefour Saint-Germain-Saint-Michel. « Oh, je croyais, me dit-elle souriante, que tu ne viendrais pas. Mon Adrien, quelle aventure !»« Quelle aventure ? Ma jolie, tu ne crois pas si bien dire. Quelle circulation ! Alors, comme ça, tu habites ici ?» Près de sa fenêtre, nous restions côte à côte à regarder vers Notre-Dame par-dessus les toits. Comme je ne savais pas comment m'y prendre, je fis une remarque tout à fait appropriée à la situation. Bah, parfait, mais tu vois les toits de Paris. Et avec un rictus évident, elle alla s'asseoir devant sa petite table de travail et se balança en équilibre sur sa chaise. Je tombai la veste et m'assis à mon tour sur un petit coffre placé contre le mur à côté de sa table. Et une nouvelle heure de banalité. De l'anecdote, du creux, du chausisme et le reste. À 3 h 30, j'allais me préparer à partir. Près de la porte, je pris un air entendu. Oh, tu sais que tu peux passer me voir quand tu veux pour travailler, consulter, déjeuner, dîner, sortir, tout. À bientôt. J'ai posé mes mains sur ses épaules et me suis approché d'elle pour l'embrasser comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps. Nous sommes restés là à nous regarder, sans commencer, sans finir. C'était la première brisure où l'on dit « je t'aime ». Bien sûr, la parole n'est qu'un chiffre de la pensée et des sentiments en même temps qu'elle est création, mais éminemment destruction. C'est en amour l'entrée avec effraction du néant dans ce qui est, du possible dans le réel. C'est le symbole qui exécute la sentence du vivant. Elle est juge et bourreau, vérité profonde revêtue de guenilles sonores pour les besoins du paraître. En amour, la parole est un crocus qui surgit à la fin d'une saison, quand le temps n'a plus rien d'autre comme alibi. L'amour, on le vit dans la minute qui précède le mot. Après, c'est foutu, comme l'assouvissement tue le désir, de même que la dégustation de la pomme ferme à jamais le paradis. Et quand je lui ai dit, oh Diane, je t'aime, j'eus la sensation douloureuse d'avoir détruit quelques secondes merveilleuses dont Diane et moi n'avons jamais reparlé, parce que ces secondes avaient été celles de notre sacre, et c'est parce que je crois ne plus revoir Diane que vous en parlez à vous est ma deuxième et dernière façon de les détruire. Et vous l'avez emmenée, rue de Rennes? Pas exactement. C'est elle qui a pris la décision d'y venir. Bien, j'y ai vécu avec elle 8 années de bonheur sans une seule ombre. Et c'est pendant la 7e année qu'elle voulut me donner elle aussi un enfant et fut enceinte d'Yves. Dès qu'elle eut accouché, puis nourri ce fils, elle se fit plus distante avec moi sous prétexte qu'elle m'avait rendu mon amour, qu'elle voulait prendre toute sa liberté de vivre et passer du temps avec moi que quand elle en aurait le désir. J'ai dit oui. Et comme j'avais depuis quelque temps acquis cette maison de banlieue où je vous parle aujourd'hui, elle s'acheta un petit appartement parisien pour y vivre quand elle le voudrait. Je crois qu'elle y eut des amants, mais malgré mon sentiment d'être parfois abandonné, je ne lui ai jamais demandé aucun compte de son existence. Ai-je eu tort? Ai-je eu raison? Mais je vous comprends. Mais tous ces papiers que vous me laissez. Bon, je pars sûrement pour plusieurs années. Vous rencontrerez Odiane et vous la mettrez devant ma décision. Un conseil gère mes quelques affaires d'argent et restera en liaison avec vous et moi. Je ne vous laisse que mes enfants, surtout Yves et mon testament. Où je vais, oh, je trouverai la paix tant espérée. De toute façon, une nouvelle vie avec Odiane est impossible. Je l'aime et sa conception trop dispersée de l'existence rend la mienne intolérable et je souhaite que notre fils continue ses études en France. Elle ne le veut pas avec elle. Ah! La liberté des femmes, quelle affaire, on dirait que leur honneur en dépend. Et l'amour maternel, quelle invention républicaine. En septembre, Adrien reçut mon accord pour tout ce qu'il m'avait demandé. Depuis 8 ans, je n'ai plus eu de lui que quelques correspondances, d'autres nouvelles par l'intermédiaire de son amie Madeleine Rochette. Pourtant, je lui ai régulièrement rendu compte, par courrier, des succès de Claire, qui poursuivit sa médecine jusqu'au bout, et de l'excellente scolarité d'Yves. Chapitre 8. Un an et demi passé, en mai, je reçus depuis Blois une lettre d'Odiane Robertet. Elle avait rencontré Claire à Paris, su par elle mon adresse. Elle me rappelait mon amitié avec Adrien et s'étonnait d'avoir appris ce qu'elle appelait « sa fuite ». Elle avait adressé plusieurs lettres à la maison d'Adrien, mais elles étaient restées sans réponse. Elle y était même venue, mais la maison lui avait semblé abandonnée. Le téléphone était aux abonnés absents. Comme elle n'avait pu obtenir de Claire une adresse ou joindre Adrien, elle me demandait de bien vouloir lui en communiquer une afin qu'elle pût lui écrire. Elle était sûre qu'il lui répondrait. Effectivement, chez Adrien, j'avais trouvé des enveloppes venant d'elle, mais il avait exigé que je ne lui fasse rien suivre venant d'Odiane, dont j'avais reconnu l'écriture. Je fis savoir à Odiane que je l'attendais chez moi ou que nous pourrions nous rencontrer à Paris si elle voulait être au courant de tout ce qui s'était passé depuis la rupture, donc apparente, infligée à M. Barberolles depuis près de 3 ans passés. Au début de juin, en fin d'un après-midi, elle sonnait chez moi. Cette femme qui m'avait tant intrigué, qui avait été à l'origine de mon plus grand intérêt pour Adrien et que j'avais convoité en secret, je dois l'avouer, cette Odiane était là, devant moi. Elle ignorait ce que je savais de son histoire, du moins ce qu'Adrien m'en avait dit. Dans son regard, d'un bleu si troublant, je vis un mélange d'inquiétude et de colère. Elle était humiliée qu'un étranger ait détenu des documents qui la concernaient et qu'elle dût s'adresser à lui pour en recueillir des explications. « Je n'ai pas à juger, madame, les motifs qui vous ont fait partir d'auprès d'Adrien, abandonner un fils et un homme que vous avez aimé, enfin, je le suppose. Non, ce n'est pas mon affaire, bien que j'y sois mêlé malgré moi. » Car c'est Adrien qui m'a confié le rôle que je tiens en ce qui le concerne et en ce qui regarde votre fils. Vous êtes bien aimable de revenir après un son silence, mais vous m'autoriserez à vous dire que c'est un peu tard. Je veux croire que vous n'êtes pas venu pour me demander des comptes. Vous n'êtes pas l'épouse d'Adrien, vous n'êtes co-signataire d'aucun des documents que je détiens, et par voie de conséquence, ces comptes, je ne vous les rendrai pas. Veuillez m'en excuser. Je m'occupe du fils d'Adrien, qui est aussi le vôtre. Je suis ses études et il m'a adopté comme un second père. Si vous voulez le rencontrer par son internat et pendant ses vacances, personne ne vous en empêche, puisque vous êtes sa mère. Reste à savoir comment il vous recevrait. Tous les samedis à midi, il arrive chez moi, mais ce que je fais pour lui, c'est au nom d'un sentiment qui n'est pas pour vous. Dans la seule mesure où vous accepterez ces points de départ, nous pourrons rester en relation le temps que vous voudrez. Ma conduite n'est pas votre affaire, c'est exact et c'est dit. À l'égard d'Adrien, je la regrette, oui, comme à l'égard de notre fils. Je reconnais que mes conceptions de vie échappent aux gens, mais je ne peux les considérer au profit d'autres égoïsmes. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit vulgairement. Oh, je ne suis pas venu vous voir pour me justifier. Je voudrais quand même savoir de quelle manière je dois m'y prendre pour habiter la maison d'Adrien, à défaut d'avoir l'autorisation de lui écrire. Plein d'objets m'appartiennent sur lesquels je pense avoir quelques droits. Mais, madame, qu'à cela ne tienne, j'en parlerai à Claire et à votre fils Yves. S'ils sont d'accord, ce n'est pas moi qui mettrai opposition, vous vous en doutez, j'espère. Eh bien, bon, restons-en là. J'attends un signe venant de vous, sans trop tarder, j'espère. Odiane prit congé. J'avais passé une partie des vacances d'été suivant avec Claire et Yves en Espagne. Nous sommes revenus pour le 15 août. Passant par Blois, j'avais laissé Yves chez ses grands-parents. Sa mère n'y était pas. Le 1er septembre suivant, elle a commencé à revenir dans la maison d'Adrien avec l'accord des enfants. À la rentrée scolaire, Yves devait quitter l'internat pour prendre chambre définitivement chez moi. C'est depuis lors qu'il m'appela Balou et que sa sœur aînée en fit autant. Est-ce à cause du livre de la jungle? Je ne lui ai jamais demandé le pourquoi de ce curieux sobriquet, probablement dû à ma démarche lente. Parfois, il écrivit à son père, qui ne lui a jamais répondu, que je sache. Je lui ai suggéré d'aller voir sa mère de temps en temps. Elle habitait à 500 mètres à peine. Il me répondit qu'il n'en avait pas l'envie. Elle ne s'était jamais occupée de lui. Avec moi, il avait tout pour être heureux, détendu, et je savais lui parler de choses qui l'intéressaient, aussi l'aider ou le conseiller dans les moments difficiles. J'avais choisi cette ville de banlieue parisienne pour son calme, son parc où le vieillot conservait quelque chose de proustien. Ainsi, je pouvais facilement rendre visite à un camarade d'enfance et de lycée, Henri Pierrard. Avec lui, je n'eus pas une relation d'amitié profonde ou de confidence sur tous les sujets autant qu'avec Adrien. Mais nous aimions nous voir, rappeler des souvenirs communs. Puis il s'était marié, nous nous étions moins fréquentés. C'était lui qui m'avait invité à m'installer dans cette banlieue, non loin de lui, afin que nous ayons de plus nombreuses occasions d'échanger et de profiter ensemble de joies tranquilles ou de nous rappeler l'ancien temps. Quoiqu'il ait une importance seulement indirecte dans l'histoire que je rapporte, j'en viens à lui parce qu'il fut mêlé à la suite de ma vie de façon tout à fait imprévue et plus précise. En effet, il avait un fils appelé André, lequel, en fin d'études de médecine et pendant sa spécialité à l'Hôtel-Dieu, avait fait la connaissance de Claire Barberolle. Apparemment amoureux de Claire, André Pierrard lui demanda sa main qu'il obtint. Ainsi, quelques années après le départ d'Adrien, mariage, fête et voyage de noces. Je n'avais pas voulu trop intervenir dans les décisions de Claire parce que je la savais facilement irritable. Ce mariage, je ne l'aimais pas beaucoup, voire pas du tout. Claire avait déjà et garde un caractère assez énigmatique qu'elle tient de son père et souvent elle est ombrageuse. Avec son physique d'une grande fragilité, elle alla parfois jusqu'à m'inquiéter sérieusement. André Pierrat lui ressemblait sur ce point, et je me rappelle avoir fait quelques remarques discrètes à Claire contre cette union. Mais elle aimait, et pour tout dire, elle y mettait une conviction qui frisait l'entêtement. Je ne voyais aucune chaleur franchement vivante et enthousiaste dans le prétendu amour d'André, et il portait dans toutes ses allures une féminité qu'il fallait être aveugle pour ne pas la détecter. Il avait le maintien et les regards d'un homosexuel, une douceur qui ne révélait rien d'assuré, encore moins cette solidité de structure dont la femme éprouve tôt ou tard le besoin chez un homme, quoi qu'on dise. « Grande fille, avais-je dit un jour à Claire, je te présente d'avance plein d'excuses, mais j'ai eu l'impression rampante qu'avec ce garçon, tu vas vers un redoutable échec. Oui, bon, tant pis, je le pense et n'en voudrais de te le cacher. De ma part, c'est aussi une forme de... Enfin, comment formuler ça? Une forme de devoir. J'insiste. Je peux me tromper et le souhaite de tout mon cœur, mais je ne suis pas seul à le penser. « Mais pourrez-vous comprendre une bonne fois, me dit-elle, que j'ai besoin de me sentir femme, complètement femme, avoir des enfants. Il peut y avoir pour ça d'autres méthodes. Ah non, Balou, vous êtes répugnant. Moi, c'est le mariage ou rien. Et avec ça, l'égoïsme du frein paternel, car à vous écouter, je crois entendre mon père. Évidemment, lui, il s'est pas gêné pour tripoter son Odiane en dehors des lois. J'étais gosse, mais je me souviens d'eux, rue de Rennes. Bien, n'en parlons plus. Après tout, oh, ton André ne te fera pas grand mal. Mes derniers mots traduisaient une résignation que je ne savais pas alors si profondément inspirée. Je me les suis répétés comme un vieux censeur romain qui n'a plus que des principes devant les progrès d'une pensée étrangère envahissante et la déliquescence de ses traditions. Devant Claire, réfugié dans sa décision comme un gardien phare au sommet de son fût, mon argumentation se réduisit à me dire qu'en fin de compte, la réussite ou non du mariage de la fille d'Adrien ne rejaillirait en rien sur moi et que m'en laver les mains était la meilleure solution. J'avais fait ce que je pouvais faire, le reste ne me concernait plus. C'est bon de se prêcher la mauvaise foi, et l'on jouit de cette facilité. On est tranquille de la tranquillité des grands avocats qui montent au pinacle du grand plaidoyer, versant leur célébrité comme seule rançon à leur perversité suffisante, elle, pour devenir des jésuites dignes de confesser des rois. Je subodorais qu'André Pierrard s'était choisi la pauvre Claire un prétexte idéal pour duper mieux, pour rassurer les siens. Et Claire m'avait aussi montré tant d'indifférence que je pensais n'avoir rien de plus à faire que des discours vagues pour la dissuader. Je laissais la vie se charger de lui enseigner les vérités de base avec plus d'exigence que moi. C'était une lâcheté dont je ne me demande pas l'excuse. Impuissance radicale devant les raisons du cœur. André Pierrard était long et mince, au teint hépatique et bistré, brun et l'œil noir. Son visage avait quelque chose d'étroit qui le classait tout de suite parmi les intellectuels secs qui se nourrissent d'impatience, celle d'alimenter en hosties nombreuses et gratuites des camps de concentration. Ses lunettes, cerclées de fer, en faisaient un cousin germain des Goebbels. Élocution lente ou saccadée, nerveuse. Il avait des poses féminines et ses conversations s'accompagnaient de gestes coulés. Supérieurement intelligent et déjà très cultivé, il manquait de la rudesse qui garantit le dynamisme. Pour un amoureux, il devait surprendre. Délicatesse ou timidité, il ne montrait aucune tendresse à l'égard de Claire, qui, pendant le temps des fiançailles, n'en manifesta pas plus d'irritation que de déception. Je la crus heureuse assez pour m'arrêter d'insister, enfin, le long de mes suspicions. Donc, voyage de noces en Bavière, sympathie d'André pour lui deux, ouf. À leur retour, ils passèrent quelques jours dans la maison d'Adrien auprès d'Odiane, puis ils pendirent la crémaillère à Paris dans un appartement petit mais confortable. Ce jour-là, je sus qu'Odiane et moi partagions des sentiments identiques et que l'avenir de ce couple ne lui semblait pas plus rose qu'à moi. Cela nous rapprocha un peu. Quand je demandai à Claire si elle avait enfin trouvé le bonheur d'être femme, elle fit un geste de bouche où perçait un agacement qui me gêna. De ma part, cette question était une erreur plus que maladroite, mais je sus aussi que j'avais levé un pan du rideau. C'est l'année suivante que je la revis souvent. Lorsqu'elle eut présenté son concours de spécialité et fut reçue brillamment, elle m'appela avant de venir passer quelques jours dans la maison de son père. Il y avait entre Diane et Claire un code. Si le téléphone était aux abonnés absents, la maison était libre. Peu importe ici l'étrangeté du procédé. Un soir que je rentrais de voyage, j'avais aperçu de la lumière chez Adrien. Claire y était et me demanda de venir la voir. Tenue sombre, silencieuse, au profond d'un fauteuil de cuir. Elle avait beaucoup fumé. L'atmosphère de la pièce était bleuâtre, translucide. Des mégots s'entassaient dans plusieurs cendriers. J'ai ouvert deux fenêtres. Comme livide, la jeune femme tourna vers moi un visage neutre et blanc au moment où je suis entré. Je ne sus lire sur ses traits qu'une absence grise de la pensée. « Tu m'as l'air bien fatigué, » dis-je. « As-tu finalement songé à l'installation de ton cabinet ?» La réponse se fit attendre. « Oh, Balou, je ne vous apprendrai pas qu'à Paris, oh, les choses ne sont pas simples et qu'il y faut de l'argent. Les banques me font la sourde oreille. Mon compte n'a jamais été gros, alors vous pensez bien que pour emprunter, je devrais pouvoir leur montrer les arrières. Mais les banquiers voient dans ma robe plus de trous que d'écus au soleil. Mais veux-tu engager une hypothèque sur la maison de ton père ? Impossible. Vous savez très bien vous-même que papa a laissé un quart d'usufruit à Odiane. Papa n'est pas mort, il faudrait sa signature. Et même dans ce cas, pour la moitié du reste, Yves m'a dit qu'il n'était pas d'accord. Il est invraisemblable qu'un morveux de 17 ans puisse me couper l'herbe sous les pieds. Je lui ai téléphoné chez vous. Il m'a opposé un non catégorique. Ah, celui-là, avec sa mère qui n'a trouvé que le moyen de faire ses valises, de planter là mon père et son propre fils qui semble la défendre maintenant. Oh, je les hais tous les deux. Tout le monde me dégoûte, pas vous, bien sûr. Vous avez toujours fait ce que vous avez pu au milieu de ce merdier. Passez-moi le mot, mais j'en puis plus. Si on dit ras-le-bol, oh, c'est vrai pour moi. Il te faut tellement d'argent. Mais Balou, mais que croyez-vous que coûte un appartement utilisable pour ouvrir un cabinet médical et pour une clientèle parisienne ? Il me faut au moins 5 pièces, des sous, en masse, oui. Location ? Déshonorant. Ah, puis je veux être chez moi. Il faut que j'en impose tout de suite si je veux pas pleurer le patient. Mazette. Oh, je vous en prie. D'ailleurs, j'ai pas envie de discuter longtemps. C'est ça ou rien. Mais enfin, il me semble que, qu'importe ce que vous en pensez, comme vous tergiverserez, je sais d'avance que vous ne ferez rien pour me faciliter les choses en dehors de vos grands mots. Vous ne tenez que des raisonnements, des leçons de morale, des prudences et le reste. Bon, la cause est entendue. Bonsoir. Je rentre chez moi. Quand tu voudras être plus calme, tu viendras prendre un café pour un petit moment de réflexion. Je veux pas perdre mon temps à dresser l'ardoise de tes vacheries. Allez, dans ce genre d'ambiance, bonjour. Claire s'emportait vite par habitude, mais ce jour-là, elle avait autre chose à dire, et j'étais certain que cet échange rapide réservait un problème plus grave. Inutile de me poser des questions. Je finirai par savoir ce qu'enrobait sa nervosité. Une rage contenue finirait par éclater, et Claire ne savait pas ruminer longtemps. J'avais vu le rougeoiement de ses yeux et les tremblements incontrôlés de sa lèvre inférieure. Elle l'avait trahi. Élucidée à moi, seule ne servait à rien. Son blocage se défrait de lui-même. Sa fumée excessive, sa pâleur, son agressivité, froide en apparence, tout cela ne voilait qu'une immense misère sentimentale ou autre, dont la question d'argent n'était qu'une traduction superficielle. Je savais aussi que les vieillards avaient de l'argent à ne savoir qu'en faire, et se seraient fait un plaisir, sinon un devoir, d'aider leur belle-fille. Mais Claire avait la susceptibilité distante à cause des aléas de son enfance solitaire. Ballottée dans un milieu où, gamine, elle n'avait pu s'épanouir. Le père, Odiane, les mercenaires, les grands-parents, un jour ici, un autre ailleurs. Elle n'avait rien demandé à Henri Pierrard, pas plus qu'à André, qui se laissait vivre sans rien faire du tout, malgré ses titres et autres diplômes de médecine. 2 heures après, elle arriva, moitié en larmes, moitié forçant un sourire amer. Elle regretta le ton qu'elle avait employé avec moi tout à l'heure. Je fus immédiatement consolant et tendre, la serrant dans mes bras et caressant ses cheveux. Sur mon épaule, elle éclata dans des sanglots que je ne pus apaiser, non sans mal. Pour faire repartir notre conversation, je lui ai parlé un peu de mes affaires et de quelques relations qui auraient éventuellement des ressources où puiser. Je lui montrais aussi combien elle devait modérer ses ambitions de départ, qu'elle ne serait pas le premier médecin de Paris à savoir endurer des débuts difficiles. Je délayais. Si elle se cabrait moins, je pourrais lui trouver des emprunts à des taux acceptables. Et très vite, avec des succès dont je ne me doutais pas, tout irait mieux. Elle m'écouta longtemps, sans m'interrompre, attentive, gardant le silence d'une élève studieuse. Balou, me dit-elle, j'ai 30 ans et encore vierge. Vous n'aviez pas tort. Vous êtes content? Elle s'effondra dans de nouveaux sanglots. Le mot était tombé comme un couperet, une chape de plomb qui glace les épaules et le cœur. Oh, je n'étais pas indigné, je n'étais pas surpris. Elle ne me regardait pas quand elle me fit cet aveu. Mes yeux n'ont pas recherché les siens. Arrêt de l'esprit qui se bloque dans une fixité de métal. Je me trouvais subitement dans l'hébétude et pensais comme en négatif, revoyant mes craintes et mes prophéties de malheur. Je ne trouvais rien à répondre. Il aurait été plus qu'indélicat de lui rappeler mes mises en garde, exclu de lui poser des questions et ridicule de la plaindre. À quoi bon la consoler, tenter même de le faire? Se lancer sur le champ dans des projets de divorce n'apportait pas de solution immédiate, et la douleur de cette grande fille, que j'avais un peu faite mienne, me traversait la fibre à moi aussi. Qu'aurait signifié la comprendre? Et que comprendre? Il faudrait agir sous peu et quand? Accuser André d'homosexualité devant un tribunal, c'était rejeter publiquement une sorte de déshonneur sur les Pierrard, lancer des bruits qui tuent. Autant que Claire, en ce moment, j'eus la nausée d'exister. Bon, lui dis-je, bon, il va falloir aviser. André est ce qu'il est, je m'en doutais. Je vais réfléchir. En tout cas, ma jolie, tu n'es plus seule et je te promets de me battre avec toi, pour toi. Je te jure que je ferai tout pour te sauver de tes ennuis. Balou, vous savez tout. Je retourne en enfer. Quelques mois après cette révélation, Claire n'en avait trouvé que des remplacements. Comme son mari, elle vivait à la charge des Pierrard, qui ne semblait pas s'inquiéter outre mesure de savoir 2 médecins sans cabinet personnel. Je revoyais Claire, qui ne me parlait plus de rien, mais toujours aussi maigre et fragile. Je la sentais vieillir, se racornir, s'étriquer dans une vie qui ne lui convenait pas. Adrien n'avait pas donné de nouvelles. Je reçus d'Odiane un appel. Elle désirait me rencontrer chez Adrien. Elle y habitait parfois, autrement son cabinet d'avocate à Paris, rue de Babylone. Elle avait quelques rides autour des yeux. Fort belle encore et fort jolie, elle avait l'allure d'une grande dame ennoblie par des formes un peu moins parfaitement dessinées. Son regard n'avait rien perdu de sa pénétration profonde, ni sa voix, de son timbre extraordinaire, et mes 50 ans passés se seraient contentés d'une telle compagnie. Fidélité au même parfum, gestes pleins d'aisance, démarche de grande classe. Elle ne suggérait plus, elle était affirmation et sérénité. À la revoir, je sentis les impressions anciennes. Cependant, tous les sentiments qui avaient dépassé en moi la curiosité ne se faisaient plus jour. Il y avait en elle de la femme qui a réussi, qui a vécu, dont le cœur usé à l'expérience des passions ne désire plus séduire en apparence, mais se satisfait à troubler encore en se donnant les plaisirs plus minces, quoique plus durables, de l'agrément. C'est à ce moment que j'eus à vivre une période très pénible, autant que la fut celle qui suivit le départ d'Adrien. Pourtant, des nouvelles venues en secret de Madame Madeleine Rochette, à qui j'avais écrit pour avoir un semblant de réponse, me rassurèrent. Adrien respirait la joie de vivre, sa santé florissait, il coulait avec sa vieille amie des jours heureux. Je l'ai dit à ses deux enfants qui n'en éprouvèrent pas de joie visible. La situation de Claire n'avait rien d'enviable, mais avait surtout créé pour moi une atmosphère que je puis appeler empoisonnée. Il faudrait agir sous peu, et mon affection pour elle grandit beaucoup malgré ma discrétion. Oriane m'avait donc invité à venir dîner dans la maison d'Adrien. Elle me dit brusquement qu'elle était torturée par l'absence de celui qu'elle avait tant aimé, que des caprices l'avaient séparée de lui, caprices dont il aurait dû comprendre, accepter le renouvellement. Combien de fois ne lui avais-je pas dit que les séparations nombreuses que je lui infligerais, et même pour plusieurs années, n'entacheraient pas notre amour si beau? Mais que ne lui ai-je répété que je reviendrais immanquablement vers lui? Oh, c'est affreux ce qu'il me manque! Évidemment, ce genre de relation n'est pas courant, et vous pouvez penser de moi que je suis d'un égoïsme scandaleux, que la fidélité est la garantie de l'amour, mais pas pour moi. Dites de moi ce que vous voudrez. Au nom de votre amitié pour Adrien, vous êtes en droit de penser de moi le pire. Madame, je crois me rappeler un mot de rupture sans ambiguïté. Je ne sais plus. Non, soyons sérieux. Quand lui avez écrit votre dernière lettre qu'il m'a montrée, veuillez m'en excuser, j'ai lu ceci autant que ma mémoire est bonne. J'ai décidé de ne plus jamais te revoir. C'était d'une clarté suffisante pour qui parle français. Les mots ont dépassé mes intentions. La réplique vous est facile. En apparence, mais elle est vraie. Jamais ne se trouvait pas dans ma lettre, j'en suis certaine. Adrien m'avait parlé de mariage, idée que je ne pouvais pas souffrir ce temps-là encore. Il m'étouffait de sa passion extrêmement compliquée, jaspée par des nuances qui m'énervaient dans leur subtilité. Il craignait que je le trahisse pour un autre homme. Ses désirs de m'enchaîner à lui m'ont paru des moyens de pression que je n'admettais plus à la longue. C'était plainte sur plainte, qui signifiait une possession intolérable et, je le précise, incompatible avec l'amour que je lui portais. Oui, que vous lui portiez, c'est donc du passé. Admettons, oui, du passé, oui. J'ai aimé Adrien comme une folle, et pour moi il est resté la plus grande figure d'homme dans ma vie, malgré les reproches graves que j'ai à lui faire. Avec d'autres hommes, je ne pensais qu'à lui, Et mes plus grands plaisirs, c'est lui seul qui me les a donnés, même au milieu des embrassements et des déclarations des autres. Quand un homme me jurait un amour, je croyais entendre Adrien, et je me vouais à cet étranger comme si c'était Adrien lui-même. Que vous êtes tortueuse pour me dire que vous l'aimez comme au premier jour. N'auriez-vous pas tendance à jouer l'amour? Vous parlez des complications d'Adrien, mais c'est du chinois, ma parole, et je ne vois pas où vous voulez en venir. Le temps a beau passer, et mon amitié pour Adrien est fidèle au poste. À moi, il manque, mais moi, je sais pourquoi. Vous avez l'air de vous plaindre d'un état que vous avez provoqué. Il n'empêche que je ne suis pas venu pour entendre démolir un ami. Si vous l'aimez d'amour, pourquoi lui avoir fait cette mise au pied du mur? Et si vous ne l'aimiez pas, il fallait le lui dire. En son absence, il serait lâche de tout le critiquer. La question n'est pas là. Comprenez-moi, je ne peux aimer que dans le repos de l'esprit. Or, Adrien cherchait à me faire, disons, à me faire tenir un rôle qui ne me correspond pas. Celui de la femme parfaite, non pas soumise, oh, il était trop grande âme pour cela, mais de la femme-femme, très femelle et sensuelle, pour lui seul. J'ai accepté de rêver que j'étais cette femme fatale, sans pouvoir l'être. Il a été mon premier homme, mais comment être à cause de cela son miroir, ou la recréation vivante du fantasme qu'il avait fabriqué en se servant de moi? Oui, j'ai essayé de l'être. Mais cela m'épuisait et me faisait perdre ma personnalité. Je serais devenu une machine à tendresse. J'aurais constitué l'ensemble des pièces d'un édifice qui se serait amusé à construire chaque jour, puis à défaire pour le reconstruire autrement le lendemain. C'est un contresens sur la vie. La vie, c'est être soi à part entière dans tous ses propres espaces, ceux de l'intérieur et ceux de son propre schéma. La vie ne doit pas être un manque permanent que l'on cherche à combler, un vide que l'on veut remplir. Elle doit être expansion, jouissance de l'immédiat. Adrien m'a paru incapable de penser la vie de cette manière. Il n'admettait pas mes absences quand je devais rester là pendant des siennes. Je me devais de retrouver le redevenir moi. C'est ce qui m'a fait fuir pour longtemps. Afin que je sois seul devant ma propre vie, même en prenant le risque du pire abandon. Adrien rendait dialectique sa foncière incapacité de donner. Il me voyait comme le sujet d'un beau discours, presque d'un plaidoyer. Puisque vous l'avez bien connu, vous devez savoir de quoi je parle. De lui, j'attendais de l'amour, non du verbe. Pardonnez-moi, mais vous avez fait au moins... l'amour ensemble. Oui, bien sûr, mais il parlait tout le temps. Il ne me cédait même pas le loisir de le sentir dans le silence. Le sujet d'un beau discours, vous? Mais l'expression de son amour était verbale. Mais en amour, il n'est pas interdit de dire « je t'aime ». Une déclaration d'amour est verbale, qu'on le veuille ou non, elle ne s'arrête pas à des gestes. Non, pas du tout. Je savais qu'il m'aimait bien avant qu'il me l'ait dit, et pour moi c'était la même chose. Raison pour laquelle une nuit je suis venu dans sa chambre, et nous nous sommes aimés sans rien dire. Où j'avais 16 ans, pas une seule fois le mot « je t'aime » n'a jailli de nos lèvres. Je le crus à moi définitivement, j'ai cru qu'il était alors mon Adrien, le mien, l'authentique. Après lui, j'ai connu un garçon que j'ai abandonné à son premier « je t'aime ». Vous voyez, c'est simple, tout simple. Je n'ai aimé qu'Adrien dans ma vie, mais je ne supportais plus qu'il me dise sans arrêt son amour. Et entre ces deux façons de vivre l'amour, si différentes, si essentiellement antinomiques, l'abîme a fait que nous ne pouvions pas nous comprendre. Après quelques années de quotidien en commun, je ne trouvais pas Adrien. Sa tendresse était si tendre aussi qu'elle me sembla de plus en plus factice. Il m'avait attendu pendant toute ma jeunesse. Je m'étais donné à lui passionnément. Je voulais devenir femme avec son corps pour moi unique. Je l'ai fait. Mais vivant près de moi, moi près de lui, je voyais qu'il continuait de m'attendre. Imaginez le plaisir pour une femme d'être scrutée, fouillée. Présente, on vous rêve, absente, on vous exige. Vivre auprès d'un homme qui vous attend à chaque moment devient un supplice que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Sous ses semblances de douceur, il me tyrannisait. Plus brutal, je l'aurais aimé pour sa force ou sa virilité violente, sa possession sans discussion, mais surtout sans un mot. Il avait le sadisme insinuant et plaintif. Oh, caricature! Vous avez dit tout à l'heure qu'il serait lâche de démolir un absent. Il n'est pas interdit d'en dire quelques vérités, même si elles dérangent. Entendre un autre son de cloche n'empêche pas l'amitié. Pouvez-vous écouter que sa jalousie était féroce, au point qu'elle me reprochait une conduite et des sentiments qu'Adrien fabriquait de toutes pièces? Je ne suis allé dans les bras d'un autre qu'après la naissance d'Yves, et pourtant, à chaque fois que j'ai fait l'amour ailleurs, si j'avais eu un nom à prononcer, à crier, à appeler, ça aurait été celui d'Adrien. Vous pouvez comprendre cela? Est-ce trop vous demander? Jamais il n'a fait le moindre effort de voir que je lui portais un amour qu'aujourd'hui je trouve insensé. J'en suis arrivé à détester qu'il m'aime. Je regrettais parfois de l'avoir choisi pour me donner mon baptême du corps. Il aurait bien valu que je puisse l'aimer sans qu'il le sache, comme une image idéalisée que je m'étais faite de lui dans mon adolescence. Et quand il m'a dit son amour au boulevard Saint-Germain, j'aurais dû le rejeter. Il aurait fait des comédies pendant plusieurs années, il m'aurait oublié avec le temps. Se serait remarié peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais il me manque tragiquement, et son départ a fait de moi une pauvre femme. Paradoxe, si vous voulez. Mais quand j'ai pris l'habitude de m'éloigner de lui, ce n'était pas dans l'intention de provoquer une situation ni de le punir de quoi que ce fût. Il fallait que je respire. Est-ce condamnable? Ce n'était pas un machiavélisme de ma part, mais une exigence fondamentale. Il me disait qu'il en souffrait, ou quand il tentait de me le faire sentir, je lui répondais « Tant pis, je ne veux plus t'entendre parler pendant un temps. » Mais je savais que je reviendrais à lui par nécessité de le revoir, de me jeter à son cou, de lui crier « J'ai besoin de toi, seulement de toi, mais laisse-moi vivre, vivre à tes côtés, mais vivre, bon Dieu !» S'il avait bien voulu changer un peu. Non, je ne l'aurais jamais quitté. Loin de lui, je respirais, mais un air encore plus irrespirable qu'en sa présence, c'était l'horreur. J'avais l'impression que je n'étais jamais ce qu'il attendait de moi. Il ne voulait pas que je sois la vraie Odiane, mais une femme, une Odiane transformable, une Odiane protée dont il aurait souhaité avoir écrit l'orchestration. Mieux valait qu'il eût choisi une femme autre que moi, mais à la mesure de sa démence. Elles courent les rues, ces femelles qui adorent un seigneur et maître. Elles adorent qu'un homme les modèle, les travaille, comme le sculpteur pétrit sa terre. Elles sont blocs de marbre ou couleur, ferraille brute à souder, à dérouiller. Moi, je suis vive et je voulais vivre. Il ne me passait rien. Mais vous avez laissé aussi votre fils. Or, ce n'est pas à lui que vous aviez à faire de tels reproches. Adrien m'a fait aussi des confidences, mais il avait des sentiments plus timides que désordonnés. Mais Adrien, disait Kiv, était notre fils. Pendant des mois, je lui ai redit qu'il n'en était rien. Il a même tenté d'accaparer ma personne au travers de l'enfant. On connaît le truc. C'est celui des femmes qui sentent le bonhomme leur échapper. En réalité, je n'avais fait cet enfant que pour le lui donner, lui faire quelque sorte un cadeau qui signifie « Tiens, je te dois les plus merveilleux instants de mon enfance et de mon adolescence première. » Il le souhaitait. Je l'aimais, j'ai cédé. Si je pouvais prendre la place de toutes tes femmes, je dirais « Nos enfants sont ceux des hommes et non pas les nôtres. » Les femmes de Lacédémone appliquaient cette règle d'évidence. Dans le fond, les seules femmes sincères, avec elles-mêmes et avec les hommes, aiment ou devraient toutes aimer à ma façon. La donne est mobilée, c'est vrai. Et vouloir faire d'une femme sa chose, c'est ne pas vouloir admettre qu'elle est justement ce mobilée dont je parle. Mais il m'aurait dominé de façon nette et indiscutable, j'aurais plié. Je ne voulais pas être son égal. Son respect construit m'appuisait. Si seulement je n'avais été pour lui qu'une nécessité de chair, j'aurais aimé être pétri. Je ne voulais pas être son fantasme. J'aurais préféré le viol, que la femme ne redoute pas autant qu'on le dit. « Déshabillez-moi, soyez l'homme, » dit une chanson. « Si un homme me suit, il m'énerve, mais s'il ne me suit plus, je le méprise. » J'aurais aimé qu'Adrien me surprenne sous un horizon de mort. « Phèdre ? » Mais oui, il n'y a pas de honte à être ce que l'on est, à prendre les gens comme ils sont. S'il refuse, c'est clair. On tente sa chance ailleurs. Vous devez me trouver dur pour la corporation. Non, non, je connais ça. Peut-être aussi l'aurais-je modifié par une autre façon de l'aimer, mais dans ce cas, vous auriez la possibilité de me dire que je l'attendais aussi. Mais vous faites les demandes et les réponses. Je reconnais que ma forme phénix d'aimer est égoïste. Je crois que l'amour ne voit que soi. Adrien le savait fort bien, mais je lui reproche de ne l'avoir pas reconnu entre lui et moi. Yves lui ressemble à rechercher toujours la petite bête, même dans le sable. Il me fatiguait autant qu'Adrien. Je ne sais pas s'il est toujours ainsi. Vous me le direz puisqu'il vit près de vous. Il y a du vrai. Mais c'est en grande partie pour cela et parce qu'à mes yeux, il était l'enfant d'Adrien, que je n'ai pas hésité à m'en séparer. Je dois avouer aussi qu'à cette époque, je n'aimais pas cet enfant, tout adorable qu'il était. Adrien mettait trop mon amour en doute. Il a même eu la méchanceté abominable de croire que cet enfant n'était pas de lui. Si je vous dis que vous n'aimez pas Adrien, mais vous-même... Bon, voudrez-vous beaucoup ? Non ? Mais je vous répondrai que vous vous trompez lourdement. Le désir que j'avais de le voir simple et direct est normal. Si, je l'aimais, et comme aucune autre femme n'aurait pu l'aimer. Prétention ? Non, encore non ! Je redoutais de le décevoir. Nombreux ont été les jours merveilleux avec lui, près de lui, tout près. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Votre doute veut me le faire répéter. Eh bien, je répéterai que ces joies ont été souvent les miennes, totales, profondes. Comme une petite bourgeoise, je faisais de mon mieux pour rattraper, effacer les ombres que j'avais pu déposer sur ses yeux. J'ai joui de sa jalousie dans certains moments. Et quand j'ai commencé à me séparer de lui, Je souhaitais violemment qu'il laissât tout pour venir m'enlever et m'emporter dans le tourbillon de notre amour unique et presque impossible, presque. Il serait alors venu me cueillir, que je l'aurais suivi partout. J'aurais été son Héloïse, son Iseut, sa Juliette éternelle, pour une passion obscure, mais bien à nous. Adolescente, j'ai rêvé que nous étions faits pour aller le chemin d'une Brocéliande, au milieu de laquelle un lac étale laisse des ondes qui s'égarent. Comme lui, j'ai vécu des contradictions. Je nous voulais terre et eau. Je l'appelais parfois mon eau souveraine, mais il ne comprenait pas. Je nous voulais tige et fleurs, arbres et prairies, coups de fusil et gibier. Je le voulais homme à part entière et grand poète de notre nature. Mais sa fragilité m'impatientait, car il ne fut que passionné, comme n'importe qui peut l'être à ses moments perdus. Je ne pensais pas à Diane se laissant aller à pleurer. Après quelques minutes, j'ai repris. « Vous avez été jalouse ?»« Pardonnez ma faiblesse, » dit-elle en s'épongeant les yeux. « Je n'ai pas le souvenir exact de l'avoir été. Bon gré, mal gré, son mariage me fit horriblement souffrir. J'étais jeunette pourtant avec mes 11 ans. Et je voyais que mon meilleur ami n'était plus pour moi toute seule. Mais quand j'appris ce qu'était coucher ensemble, faire l'amour, alors ce fut atroce. Il fallait que je le récupère physiquement. Je devais le reprendre à l'autre qui me l'avait volé. Je voulais Adrien, il était à moi seul, et aucune femme n'avait le droit de l'avoir sans ma permission. Quand je suis venu rue de Rennes, l'idée qu'il pouvait prendre dans ses bras une autre femme que moi m'était insupportable. Si c'est ça, être jalouse, alors oui, je l'ai été. Je haïssais l'idée qu'une femme pût lui sourire, lui faire des mines. Mais quand j'ai cru comprendre qu'il aimait en moi sa propre image, ma jalousie s'effondra d'elle-même. Un jour, je lui ai dit qu'il ne m'aimait pas, et il n'a rien répondu. Bon, c'était, comment dire, gratuit. Non, je vous le redis sans hésiter. Il aimait ses rêves de moi et me dramatisait. Je sentais que ma présence à ses côtés désenchantait l'envoûtement et notre goût d'en partager le vivre. La vie de tous les jours. Et Dieu sait que j'aimais le retrouver depuis nos séparations, moi qui ne comprenais plus rien en lui. On aurait dit que je me raccrochais à un fil ténu, très ténu, qui s'effilochait. Lui non plus ne m'aurait jamais comprise, comme j'avais le besoin de l'être, tout simplement dans la nécessité inutile de dire que l'on aime. Aimer, c'est tout. Le reste précède ou suit. Avec Adrien, tout avait précédé, rien ne suivait. Il pouvait me faire le reproche d'intégrer la vie de cette manière-là, qui est mienne, avec ses aspects déroutants pour les gens du commun. Il était poésie, sentiment, invention, intuition. Mais mon corps ne lui appartenait pas. Il avait ainsi de moi la meilleure part. Et s'il s'en est plaint, il a eu mauvaise grâce. D'ailleurs, je ne pouvais appartenir à personne, parent, homme, enfant. Il ne saisissait pas le pourquoi ni le comment de cet amour dans ses méandres non plus que moi-même n'en avais eu conscience distincte. Et vous êtes impossible à satisfaire. Peu importe. Il n'aurait jamais dû savoir mon amour pour lui. Sa connaissance de moi fait de lui un amant défunt, car toute passion déclarée me conduit au désespoir. C'est idiot, la passion dès qu'elle est formulée. Vous devez me prendre pour complètement folle. Notre conversation fut brutalement interrompue par un coup de téléphone de Claire qui demandait de venir d'urgence. Nous sommes partis, Odiane et moi, mais nous n'avons pas échangé un mot pendant notre demi-heure de trajet. L'inquiétude nous tenaillait.